Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le magazine du week-end, votre rendez-vous de l'été qui explore chaque samedi et chaque dimanche l'actualité de la semaine en France et dans le monde. Une émission préparée par Amélie Perrault, Clara Garnier-Amourou, Catherine Donnet, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde par Florent Bujon. Aujourd'hui, l'actualité nous emmène en Colombie, où le nouveau président Iván Duque prendra ses fonctions officielles après-demain. Près de 2 ans après l'accord de paix avec les FARC, la droite dure revient au pouvoir dans un pays plus fracturé que jamais. On en parle à partir de 13h20. Mais d'abord, alors que la loi Asile et Immigration a été définitivement adoptée à l'Assemblée cette semaine, on s'intéresse aux grands déplacements présents et futurs. Chez les hommes politiques désireux de compenser la fermeté de leur discours sur les migrations, on entend souvent dire que si l'Europe n'a pas les moyens d'accueillir les migrants dits économiques, elle peut toutefois augmenter l'aide au développement. Ainsi, les candidats au départ seraient-ils plus enclins à rester dans leur pays d'origine ? Or, les études se multiplient pour battre en brèche cette idée selon laquelle le développement d'un pays entraîne une diminution des départs. En réalité, il semblerait que les migrants qui arrivent en Europe soient plus souvent issus des pays africains sur la voie de l'émergence que des États les plus pauvres. L'aide au développement serait-elle donc une solution hypocrite à la crise migratoire ? Et dès lors, comment répondre aux grands défis que pose l'explosion démographique de l'Afrique ? Pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons la chance de recevoir François Héran. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, démographe, titulaire de la chaire Migration et Société du Collège de France, directeur de l'Institut Convergence Migration et auteur de cet ouvrage Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir, paru à la Découverte. Mesurer, débattre, c'est ce que l'on va tenter de faire et vous allez également nous y aider. Fleur Guibert, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice du département Société et Mondialisation de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et auteur de Les migrants, acteurs des changements politiques en Afrique, avec Lisa Chauvet, Thibault Jolin et Sandrine Mesplesson aux éditions de Beck. Enfin, également avec nous par téléphone, et je le remercie, Serge Mikhailov. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à la Fondation FERDI, Fondation pour les études et les recherches sur le développement international, et à l'IRIS, et ancien directeur des opérations de la Banque mondiale en Afrique. Vous avez publié « Afrikanistan, l'Afrique en crise, va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?» publié chez Fayard. Alors je vais commencer avec vous, François Héran, avec cette question directe. Est-ce que véritablement ce sont les classes moyennes qui en Afrique rejoignent les routes de l'exil en direction de l'Europe, comme l'a dit Emmanuel Macron dans une interview à RFI et France 24 le mois dernier ?
Alors, il faut distinguer, enfin, il y a le niveau social des immigrés, il y a aussi le niveau de développement des pays. On sait depuis longtemps, ce sont vraiment des données de base, malheureusement souvent ignorées, que ce ne sont pas les pays les plus pauvres. Les plus pauvres des plus pauvres qui migrent le plus, les pays trop pauvres sont trop pauvres pour migrer, pour émigrer. Par exemple, l'Afrique subsaharienne, justement, est une région du monde d'où l'on émigre fort peu, essentiellement à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, vers d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Si vous regardez les grands mouvements migratoires dans le monde, il faut avoir une vision planétaire pour resituer la migration africaine dans cet ensemble. Les grands mouvements, c'est le Mexique, un niveau de développement humain moyen, enfin à peu près un peu au-dessus de la moyenne, vers les États-Unis. C'est l'Inde du Sud, le Pakistan, etc., vers le Golfe. C'est l'Afrique subsaharienne, c'est notamment le Maghreb vers l'Europe du Sud et surtout vers la France. Mais les pays de l'Afrique de l'Ouest migrent très peu vers la France. Alors je sais que c'est contraire à une idée reçue, évidemment, parce qu'il y a une concentration assez spectaculaire de cette migration dans certains quartiers, dans certaines villes. Mais la question, c'est de savoir qu'en sera-t-il à l'avenir dans les 50 prochaines années. On en reparlera.
Alors ce qu'on constate, c'est qu'en effet, plusieurs études démontrent que ce sont les pays qui ont atteint un certain niveau de développement, comme le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou le Ghana, qui font le choix de l'Europe. Et les Ivoiriens seraient en tête. Comment on explique, Flore Guibert, que ce soit ainsi l'Afrique émergente qui migre ?
Parce que migrer coûte cher.
Migrer coûte cher, il faut prendre en charge les frais de déplacement, les frais de passeurs éventuellement, si on fait le choix de la migration illégale. Et puis je dirais, les aspirations sont quelque chose aussi qui vient avec l'amélioration des conditions de vie. Une fois qu'on a assuré sa survie alimentaire, etc., on aspire à d'autres choses. Et là, les modèles que peuvent renvoyer les médias, la télévision, etc., font envie aussi aux jeunes de se déplacer. Donc c'est pour ça que, en général, ce qu'on observe effectivement, c'est une propension à migrer qui est relativement faible chez les pays les plus pauvres et parmi les individus les plus pauvres au sein de ces pays, et qui s'accroît. Et de fait, si vous interrogez un jeune Français aujourd'hui qui vient de finir ses études ou qui est en cours d'études, je pense que peut-être 80% d'entre eux vous diraient qu'ils aspirent à migrer, que ce soit dans le cadre de leurs études ou au début de leur vie professionnelle.
Donc Serge Mikhaïlov, le postulat largement répandu que la pauvreté ou le sous-développement est la principale cause des migrations internationales est faux, selon vous. Vous êtes d'accord avec cela?
Écoutez, modérément, dans la mesure où d'abord il faut dissocier et distinguer les migrations politiques et d'origine souvent sécuritaire et puis les migrations économiques. Alors les migrations économiques, il faut quand même bien voir que entre un pays comme la France et un pays comme le Mali, les différences de revenus sont de l'ordre de 1 à 50. Et entre les pays OCDE globalement et les pays africains, ça peut, en termes de variété de pouvoir d'achat, ça peut dépasser 40 à 50 également. Donc, je dirais, il y a quand même un facteur d'aspiration de populations très pauvres, en particulier dans les pays où les perspectives sont extrêmement faibles en termes d'insertion économique et d'insertion sociale. Alors, il y a à ceci d'autres phénomènes qui se développent. Il y a le phénomène des diasporas, qui ont un rôle d'aspirateur, pratiquement, à migrants. On voit bien dans la banlieue parisienne, je pense à Montreuil, que la région de Caille, qui est une région qui n'est pas particulièrement pauvre au Mali, mais qui revient dans un pays qui est quand même assez en difficulté, eh bien, vous avez des migrations très importantes qui viennent de zones spécifiques, en particulier du Sahel. Alors, les migrations politiques, vous avez des phénomènes de très grande pauvreté derrière les migrations politiques. Elles viennent de deux ou trois pays principaux en Afrique. Elles viennent essentiellement du Sud-Soudan et du Darfour au niveau du Soudan et puis de l'Érythrée. Et là, vous avez des gens qui sont d'une très grande pauvreté, je dirais, qui sont prêts à prendre tous les risques pour traverser le Sahara, se retrouver dans des conditions épouvantables en Libye, et puis migrer, bien qu'ils soient extrêmement pauvres.
Serge Mikhaïlov, on va parler aujourd'hui essentiellement des migrants économiques, puisque l'idée de notre sujet du jour, c'est de voir pourquoi est-ce que les hommes politiques utilisent pour beaucoup ce discours de l'aide au développement comme un argument, comme une réponse possible à la crise migratoire, alors que les données qui viennent d'être apportées prouvent que ça ne marche pas. François Héran, comment on explique que cet argument de l'aide au développement continue à être utilisé et aussi que ce soit aussi peu connu, cette donnée selon laquelle en grande partie ce sont des pays qui sont sur la voie de l'émergence qui migrent?
Alors, c'est une donnée qui est connue de longue date. Ça fait bien 30 ans ou 40 ans qu'on a démontré que la migration augmentait, que la probabilité d'immigrer augmentait avec le développement au lieu de diminuer.
On n'a pas le sentiment que ça fait encore consensus parmi les chercheurs.
Si, chez les chercheurs, je dirais vraiment ça fait partie des données communes, c'est ce qu'on enseigne, je dirais, dès la première année. Enfin, ce sont tout ce qui a été fait par la Banque mondiale, par l'OCDE, par tous les chercheurs, enfin, converge vers très fortement. Donc, on sait de longue date qu'effectivement, ce n'est pas en accroissant l'aide au développement qu'on freinera l'immigration. Donc, le problème, c'est de savoir pourquoi les politiques l'ignorent-ils encore, pourquoi tel ou tel livre à succès fait semblant d'avoir découvert la chose alors que c'est connu de longue date.
Et selon
voilà.
Vous
c'est, ah ben, ça, c'est tout le problème de la communication entre le monde de la recherche et les politiques. Les politiques en matière de migration ont quand même tendance à vouloir caresser l'opinion publique dans le sens du poil, c'est quand même beaucoup plus facile, et ils savent tout et ne veulent rien savoir. Et on a énormément de difficultés arriver à faire en sorte que les hommes politiques, ou que la classe politique en tout cas, veuillent réellement s'informer là-dessus. C'est la période actuelle est significative, je dirais, c'est depuis 30 ans que l'on constate la chose. Donc peu à peu, un certain nombre de vérités s'établissent, mais il y faut du temps.
Flore Gubert, c'est lié au fait que la question migratoire a été énormément politisée ces dernières années.
Oui, absolument. Et puis moi, j'irais presque encore un peu plus loin et au risque d'être provocante, mais je pense que l'aide aujourd'hui est une façon d'acheter la collaboration des pays d'origine. Et donc, on est dans un jeu donnant-donnant. Si vous nous aidez à gérer les flux migratoires et à les contraindre, alors on vous dédommagera avec plus d'aide. Et je crois que là, on voit bien que la finalité, c'est pas tellement le développement, c'est plutôt la restriction des flux migratoires, et donc c'est un réel problème.
C'est important ce que vous dites, Flore Gubert. En effet, il y a une partie de l'aide au développement qui est utilisée pour aider les pays de départ à retenir les migrants.
Mais absolument, oui.
Serge Mikhaïlov, c'est aussi ce que vous avez constaté, ou c'est un phénomène plus récent?
On voit, si vous voulez, actuellement dans l'augmentation des flux d'aide à l'Afrique, en particulier à l'Afrique sahélienne, il y a essentiellement effectivement le souci de limiter l'immigration africaine. Alors dans ce contexte-là, vous avez des aides qui sont effectivement, je pense, avec des aides européennes qui sont directement liées au souci de bloquer l'immigration dans les pays de transit. Par exemple, sur la ville d'Agadez, qui est une ville de transit et d'approvisionnement pour toutes les mafias qui assurent les transports à travers le Sahara. Maintenant, il y a une interdiction gouvernementale liée à des conditionnalités de l'Union européenne et qui interdisent maintenant le transport de migrants à travers le Sahara au départ d'Agadez. C'est d'ailleurs c'était relativement efficace dans la mesure où il y a d'énormes plaintes de toutes ces mafias qui s'étaient développées pour le transport de migrants.
Alors Serge Mikhaïlov, certains pays d'accueil font même peser les frais de l'aide au retour des migrants expulsés sur le budget de l'aide au développement. Vous diriez qu'on assiste à un dévoiement total de cette aide?
Oui, alors ça dépend des pays au niveau... Si vous voulez, c'est un sujet assez compliqué parce que ce qu'on appelle budget de l'aide au développement... C'est en fait ce qui s'appelle l'aide publique au développement, dans laquelle on met énormément de choses qui ont peu de rapport avec une aide concrète sur le pays, dans les pays. Donc on retrouve dans ce concept-là des choses aussi étonnantes que les frais des scolarités des étudiants étrangers en France, etc., etc. Donc je crois que c'est pas ça qui est important. Il faut voir que l'essentiel des migrants économiques africains reste en Afrique et se déplace vers les pays qui sont quasi émergents. Je parlerai pas véritablement de pays émergents, ils n'y sont pas encore, mais effectivement de pays vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, vers le sud du Nigeria. Mais il faut pas oublier que la distinction entre les migrants économiques et les migrants, qui sont liés à des conflits internes, elle n'est pas si claire et si simple que cela. Et quand on raisonne sur le moyen terme, je pense à 20 ans, je pense que le principe selon lequel uniquement les pays relativement riches et les migrants disposant d'un certain niveau de revenus vont pouvoir migrer, je pense que cette affirmation va se révéler de plus en plus fausse dans la mesure où on va avoir des pays dans lesquels le niveau d'insécurité va monter de façon très importante, va bloquer le développement économique, en particulier le développement rural, va poser des problèmes très graves. On voit le modèle du nord-est du Nigeria, dans les trois états du nord-est du Nigeria, vous avez les 13 millions d'habitants. Sur les 13 millions d'habitants, vous avez 2 millions qui sont déplacés et vous avez 4 millions qui sont dans une situation extrêmement critique au plan alimentaire. Bon. Or là, ce qui se passe dans le nord-est du Nigeria, c'est un peu le modèle de ce qui risque de se passer sur l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire une zone qui compte à peu près 100 millions d'habitants aujourd'hui, qui va en compter 150 millions dans 10 ans, et dans lesquels on va avoir des phénomènes extrêmement graves de ce genre. Et alors effectivement, les migrants vont se déplacer vers Abidjan, vers Lagos et vers Accra, mais ils seront pas forcément bien accueillis dans ces villes-là où les perspectives, d'insertion pour eux sont extrêmement limitées, surtout s'il s'agit de personnes qui ont un niveau d'éducation, un niveau de formation technique quasi nul. Et donc, on aura des accélérations de migration.
En cela, Serge Mikhaïlov, vous partagez le point de vue de Stephen Smith qui parle d'une ruée vers l'Europe, il faut dire que la population africaine, pardon, Michaïlov, pardon, devrait quasiment doubler au cours des 30 prochaines années pour atteindre 2,5 milliards de personnes. François Héran, pour vous, on ne peut pas à l'heure actuelle parler de cette ruée vers l'Europe dont parle Stephen Smith?
Alors, j'ai lu attentivement les livres de Stephen Smith. Ça s'écrit Stephen, on prononce Stephen hein, en anglais.
Ah ben merci.
j'ai lu attentivement ce livre et je suis extrêmement troublé, enfin déconcerté par la façon dont ce livre est fait. Car la ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent, on nous dit de façon extrêmement péremptoire, la jeune Afrique va se ruer vers le vieux continent, cela est inscrit dans l'ordre des choses. Donc c'est une phrase très forte qui est dans l'introduction. Mais ensuite, quand vous allez un peu plus loin dans l'ouvrage, vous allez autour de la page 150, vous découvrez qu'il faut toute une série de conditions pour que cette ruée soit effectivement observée. Il faudrait par exemple que l'Afrique se développe davantage, ce qui n'est pas rien comme condition. Et en réalité, les chiffres qui sont cités sont totalement extravagants. Il est dit à plusieurs reprises que d'ici 35 ans, d'ici 2050, nous devrions avoir un quart de la population européenne qui serait composée d'Africains. C'est dit en toutes lettres dans l'ouvrage. Je me suis demandé d'où venait ce chiffre. Il vient d'un certain Milman, qui est un critique de théâtre, ancien financier, qui est cité par l'auteur. Mais quand vous regardez les travaux qui ont été faits alors par le FMI, il y a eu toute une équipe de recherche qui a publié une note spillover, c'est comme ça que ça s'appelle récemment. Il y a eu également une recherche qui a été faite par les chercheurs de la Banque mondiale. On regarde quels sont les facteurs de migration. Les Africains ont les mêmes raisons de migrer que le reste du monde. Les écarts de revenus entre les pays, la présence d'une diaspora, ça a été dit, un certain nombre de facteurs comme un minimum d'éducation, de ressources, etc. Et quand on applique ces facteurs de migration aux effectifs qui sont projetés par les Nations Unies pour 2050, à l'horizon 2050, qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans les pays de l'OCDE, au lieu que les subsahariens représentent 0,4% de la population, ce qui est actuellement le cas, ça sera 2,4%. Alors c'est très important, c'est une multiplication par 6. Mais 2,4%, ce n'est pas une invasion. Mais attendez, 2,4%, ça n'a rien à voir avec 40%. Donc ce qui est hallucinant, c'est de voir comment un ouvrage reposant sur des bases aussi fragiles arrive à des conclusions extraordinairement péremptoires, expliquant notamment, et c'est ça tout le problème, qu'il va falloir choisir entre le maintien de la protection sociale et l'accueil des migrants. C'est une espèce de faux dilemme, et que si on veut protéger notre protection sociale, c'est quand même une des conclusions fortes de l'ouvrage, alors il va falloir prévenir cette ruée vers l'Europe, etc. Ce livre ne repose pas sur des bases sérieuses. Il y a des grumeaux de documentation, de faits qu'on retrouve dans ce brouet, mais globalement, l'argument central est vraiment totalement démenti par les recherches les plus sérieuses qui ont été faites récemment, et notamment en prenant en compte les projections démographiques de l'ONU.
Alors, il y a une étude qui a été réalisée en 2016 par l'Institut Gallup qui estime que 42% des Africains de 15 à 24 ans déclarent vouloir émigrer. On sait évidemment que les perspectives d'emploi sur le continent sont quand même assez faibles. Vous partagez cette idée selon laquelle, en effet, on aurait peut-être, Flore Gubert, une idée un peu trop fantasmée de cette ruée vers l'Europe.
Oui, mais je crois que ce qu'a dit François Héran est tout à fait exact. Hein. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Parce que bâtir des scénarios à l'horizon 2050 est assez compliqué en réalité. Hein, et qu'on ne peut pas juste projeter ce qu'on observe aujourd'hui en se disant, sachant que la population africaine va augmenter de temps, alors on peut s'attendre, si on fiche tout et on considère toutes choses égales par ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un accroissement des migrations de temps.
C'est la théorie des vases communicants.
Rien ne dit que ces migrants iraient forcément en Europe. Il y a d'autres destinations possibles. Ils pourraient partir en Amérique latine, en Amérique du Nord.
De fait, et Serge Michaïlov l'a rappelé, il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, deux tiers des migrants africains sont restés sur le continent, enfin migrent à l'intérieur du continent africain. L'Europe est la destination d'une petite minorité d'entre eux en réalité.
20% alors, d'immigration
sûr,
environ.
Bien sûr, la très forte croissance démographique interroge sur la persistance de ces flux intracontinentaux, parce que ça pose la question des capacités d'accueil des villes côtières. Ça, on a un vrai sujet là, on est bien d'accord. Mais peut-être que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, voilà comment se fait la mobilité à l'intérieur de l'Afrique. On sait qu'il y a effectivement beaucoup de mouvements qui vont des pays, des régions enclavées vers les régions côtières. Ces régions côtières, elles ont aussi des vulnérabilités. Et donc, est-ce que, voilà, je pense que c'est en termes de schéma de développement, il faut penser aménagement du territoire, essayer d'identifier des régions à l'intérieur du continent africain qui pourraient devenir de nouvelles régions d'accueil potentielles. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut construire la politique d'aide au développement. Donc, avoir c'est cet objectif-là en tête et pas le seul objectif de contraindre, limiter les flux migratoires.
Je voudrais, si vous me permettez, revenir sur cette aspiration à migrer. Cette enquête Gallup qui existe depuis une dizaine d'années et qui consiste à placer toujours la même question sur le désir de migrer dans toutes les enquêtes Gallup faites à travers le monde. La question posée, c'est dans l'idéal, ideally, dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, souhaiteriez-vous quitter définitivement votre pays pour vivre dans un autre ? Et alors, dès qu'on pose des questions concrètes, quand on pose une question dans l'idéal, évidemment, ça suggère fortement la question. Quand on pose des questions concrètes, bon, cela dit, est-ce que vous comptez vous migrer dans les 12 mois qui viennent ? Déjà, le chiffre se dégonfle totalement. Et quand on demande, avez-vous déjà entamé des préparatifs, les 17 ou 18% au niveau mondial deviennent 1 ou 2%. Et donc, il y a très très loin de l'idéal à la réalité. Et comme on a pu y faire allusion tout à l'heure, les Européens eux-mêmes ont des aspirations à migrer. Il y a 25% des jeunes Britanniques qui souhaiteraient migrer et qui répondent oui à cette question. Donc, en fait, l'indicateur de migration potentielle, c'est comme ça qu'il s'appelle, fait par l'Institut Gallup, est considéré comme, enfin, n'a absolument aucune valeur prédictive. Ça, c'est vraiment très important. Et là encore, le livre de Stephen Smith y fait allusion, sans aucun recul, d'ailleurs, de seconde main, alors qu'une étude sérieuse de la Commission européenne est parue là-dessus, qui a relativisé tout ça.
Le géographe et diplomate Michel Fouché, lui, appelle à un changement de paradigme. Il voudrait qu'on parle non plus de migration, mais de mobilité. Serge Mikhaïlov, quelles pourraient être les solutions précisément pour favoriser peut-être le fait qu'un certain nombre de migrants restent là où ils auraient pu avoir l'idée de partir. Il y a différentes choses qui sont proposées par Michel Fouché, favoriser l'activité dans les pays de départ comme l'ont fait les Espagnols au Sénégal où ils ont réussi à stopper l'émigration vers les Canaries, encourager ceux qui veulent retourner dans leur pays par le biais de visas multi-entrées ou encore développer des pactes migratoires entre les pays d'accueil et de départ. C'est des solutions qui vous paraissent envisageables ?
Mais écoutez, avant d'aborder cette question, je voudrais quand même revenir sur les problèmes migratoires africains, parce que je pense que la conversation laisse penser qu'il y a un problème relativement mineur. Alors, quand on réfléchit à 35 ans, 2050, on a quand même des problèmes démographiques qui sont majeurs. Je vais vous donner quelques chiffres. Le Niger avait 3 millions d'habitants à l'indépendance. Bon, aujourd'hui, il en a 20 millions, un petit peu plus de 20 millions. Et il en aura entre 60 et 90 millions en 2050. Pardon, 2050, c'est dans 33-34 ans, c'est véritablement demain. Or, au Niger, vous avez à peu près 8% de la surface qui est cultivable, la superficie qui permet de pratiquer une agriculture normale. Cette surface risque d'être réduite au cours des années à venir à cause du réchauffement climatique. Donc on voit bien que le Niger ne pourra pas faire vivre 60 millions, encore moins 90 millions s'il n'y a pas de régulation des naissances. Et on voit bien qu'une grande partie de ces populations va se déverser sur le Nigeria. Au Nigeria, en 2050, il y aura 400 millions, à peu près entre 380 et 400 millions d'habitants. Bon. Alors on voit bien qu'au Nigeria actuellement, il y a une insuffisance d'emplois, tout simplement parce que l'industrie manufacturière créatrice d'emplois n'a pas été mise en place. Au contraire, elle a été détruite par les importations chinoises. C'est un pays dont l'agriculture est quand même en grande difficulté. Donc on voit bien qu'on a des phénomènes démographiques à relativement brève échéance, c'est-à-dire entre 30 et entre 20 et 35 ans, qui sont extrêmement inquiétants parce qu'on aura des phénomènes en cascade, c'est-à-dire effectivement on aura des migrations internes, je dirais, du Niger vers le Nigeria, du Nigeria vers de l'ensemble du pays vers les grandes villes, les grandes agglomérations urbaines qui sont très très mal équipées, où l'insuffisance d'investissement urbain est tout à fait dommageable. Et ensuite vous aurez un exode nécessairement vers l'extérieur qui va se produire, vers l'Europe, vers peut-être l'Afrique du Sud.
Mais alors c'est nécessairement Serge Mikhaïlov qui fait consensus. Et alors pourquoi parler d'un afflux soudain et pas d'un flux migratoire régulier comme c'est le cas depuis 10 ans?
C'est pas du tout un afflux soudain, c'est un afflux qui était jusqu'ici relativement mineur, mais qui va augmenter rapidement au fur et à mesure que la croissance démographique va poser des problèmes d'emploi et des problèmes d'insertion économique et sociale dramatiques dans un certain nombre de pays où on a une démographie qui est hors de contrôle. Je pense aux pays du Sahel actuellement.
Je voudrais dire quand même que, enfin, mon propos ne consiste absolument pas à minimiser l'ampleur des problèmes démographiques de l'Afrique. Absolument pas. Au contraire, dans les études que j'ai citées, ils sont pris en compte. La multiplication par 6 de la présence des subsahariens dans les pays de l'OCDE, c'est quelque chose d'important. Mais ça consiste à passer de 1,5% de la population à 2,5%. Alors pour la France, ce sera peut-être 4% ou 5%, puisque nous avons proportionnellement plus de migrations subsahariennes que d'autres pays. Mais ça n'est pas 40%. Donc je crois qu'on peut à la fois, avoir une idée extrêmement précise et concrète des problèmes démographiques que pose l'Afrique. On peut tout à fait être totalement d'accord avec chacune des phrases que vient de prononcer M. Mikhaïlov, il n'y a aucun problème là-dessus, sans pour autant parler de ruée vers l'Europe et sans pour autant justifier une politique migratoire de totale fermeture en faisant comme si la misère du monde devait nécessairement s'inviter chez nous si on ne fermait pas les frontières. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe et on peut parfaitement préserver notre sécurité sociale, on peut parfaitement préserver les équilibres mondiaux, etc., en pratiquant effectivement l'ouverture qui sera nécessaire dans les années à venir, sans que pour autant on puisse parler d'invasion, de ruée, et certainement pas 40% de la population européenne qui serait africaine d'ici l'an 50, comme c'est dit dans le livre en question.
Et alors que ce soit pour empêcher d'éventuelles arrivées de migrants, ou simplement pour aider, soutenir l'Afrique dans cette transition démographique, quelles actions peuvent être menées très concrètement sur le terrain? Donc, on a commencé cette émission en disant que l'aide au développement n'était pas véritablement une solution effective, elle va quand même être augmentée et portée à 0,55% du PIB français à partir de 2020. C'est une décision d'Emmanuel Macron. Quelles actions peuvent être mises en place, Flore Gubert, par rapport à ces idées de Michel Fouché que je proposais tout à l'heure? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être faites?
On peut faire toute une liste à la Prévert de choses qui peuvent être faites à travers de l'aide publique au développement.
Qu'est-ce qui a fait ses preuves? Qu'est-ce qu'il a moins fait?
Je crois qu'il y a quand même un consensus autour de la table pour dire qu'il y a effectivement une croissance démographique extrêmement forte, et donc il faut que ces pays arrivent tant bien que mal à générer sinon autant d'emplois, au moins en tout cas un plus grand nombre d'emplois pour satisfaire une offre de travail qui va être très très très, qui est déjà très important, qui va ne faire que croître au cours des prochaines années. Donc comment favoriser l'emploi? Et ben il faut mettre en place des infrastructures, des routes, etc. Donc ça c'est typiquement quelque chose que l'aide publique au développement finance. Il faut favoriser l'initiative privée, les créations d'entreprises, faire en sorte que toutes petites entreprises informelles qui aujourd'hui fleurissent dans la plupart des capitales africaines réussissent à grossir et puis soient génératrices d'emplois. Donc évidemment, l'emploi, c'est effectivement une donnée absolument clé.
Et Serge Mikhaïlov, vous appelez-vous à développer très largement l'agriculture?
Oui, alors il y a deux choses, si vous voulez. À court terme, au Sahel, dans la mesure où vous avez entre 75 et 80% de la population qui est employée dans le secteur rural, il faut mettre l'accent sur l'agriculture et sur toutes les filières amont et aval de l'agriculture qui sont en grande difficulté. Alors on a, au plan technique, on sait ce qu'il faut faire. Malheureusement, il y a très peu d'argent des donateurs qui se consacrent à ce domaine-là, tout simplement parce que l'agriculture était passée de mode, si vous voulez, en termes d'activité pour les donateurs, et passée de mode depuis plus de 30 ans. Donc les donateurs aujourd'hui ont des problèmes de compétences en ce domaine. Alors au-delà de cela, il y a énormément d'investissements à faire dans les villes secondaires, qui pour certaines n'ont pas d'électricité, les gros bourgs, les petites villes secondaires, de façon à faire en sorte que ces villes secondaires deviennent des centres de services pour l'agriculture. Ensuite, il va falloir faire d'énormes efforts d'investissement urbain dans les grandes métropoles du Sud, dans lesquelles les conditions de vie, dès que vous quittez les quartiers centraux, sont absolument épouvantables, délirantes. Donc il y a des problèmes d'assainissement, il y a des problèmes de grandes infrastructures urbaines qu'il va falloir réaliser et qui aujourd'hui ne le sont pas, tout simplement parce que les villes n'ont pas de ressources et que les États également sont assez impécunieux, sachant que les donateurs dans ce domaine sont assez peu actifs. Donc on s'aperçoit qu'ils sont très actifs dans les domaines sociaux, mais insuffisamment actifs dans les domaines des infrastructures urbaines, dans le domaine du développement rural, où il y a à la fois énormément d'emplois possibles et puis de bonnes possibilités pour freiner les phénomènes migratoires. Mais encore une fois, en faisant tout ça, on va gagner 20 ans. Hein, et quand on raisonne à 40 ou 50 ans, alors là, les problèmes sont beaucoup plus graves.
Et alors, est-ce que l'argent de la diaspora, dont on estime qu'il est, c'était une donnée que vous nous avez apportée, Fleur Gubert, 3 à 4 fois plus important que l'aide au développement, peut permettre justement de mettre en place un certain nombre d'actions de développement en Afrique ?
Alors, ce que montrent les travaux hein, qui se sont intéressés aux conséquences des transferts. Donc effectivement, en termes de volume, on estime que les transferts c'est à peu près 435 milliards de dollars en 2016. L'aide publique au développement hein, c'est 135 milliards de dollars. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un rapport de 1 à 3 entre les deux volumes, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ces transferts ils jouent un rôle considérable dans la mesure où il contribue à réduire les phénomènes de pauvreté transitoire. C'est-à-dire, vous avez une famille qui, les familles aujourd'hui, dans plein de pays d'Afrique, sont tellement pauvres que, ou en tout cas, même si elles sont pas pauvres, dès qu'il leur arrive un événement défavorable, elles tombent en dessous du seuil de pauvreté. Il leur est très difficile de s'en remettre. Les transferts migratoires, ils permettent aux familles d'être protégées contre ça. Donc, contre tous les aléas, tous les chocs qui peuvent leur arriver. Donc, c'est une assurance qui fonctionne remarquablement bien. C'est vrai qu'on attendrait des transferts qu'ils aillent au-delà de ça, hein, qui soient générateurs de revenus, qui contribuent à créer des activités. Je dirais,
c'est pas encore le cas.
C'est pas encore le cas. C'est pas ça. C'est-à-dire que l'argent que les migrants consacrent à protéger les leurs hein, et à les assurer, c'est beaucoup d'argent déjà. Hein, et donc on peut pas demander à la fois aux migrants d'être des assureurs remarquables et en même temps d'être des développeurs, quoi. Et donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aussi là un sujet pour l'aide publique au développement. C'est-à-dire que si se mettaient en place des systèmes d'assurance alternatifs qui apportent une protection aussi efficace que celle qu'apportent les migrants, alors les migrants auraient sans doute davantage de moyens et de ressources pour faire des investissements productifs.
Il y a aussi le fait que la France fait davantage de prêts que de dons, Serge Mikhaïlov. Est-ce que ça aussi, ça peut poser un certain nombre de problèmes ?
Oui, alors effectivement, si vous voulez, en ce domaine, c'était un long scandale qui... je pense, est interrompu depuis l'arrivée au pouvoir du président Macron, c'est que quand on affiche nos chiffres d'aide publique au développement, on se glorifie d'avoir une dizaine de milliards d'euros d'aide publique au développement, ce qui est un concept extrêmement flou, extrêmement contestable. Lorsqu'on regarde l'effort budgétaire effectif que nous faisons, ça ne représente que 2,3 milliards, donc il y a beaucoup de mousse dans la façon dont on présente notre aide publique au développement. Et ce qui allait en termes de subventions pour faire des projets, c'est-à-dire non pas des prêts dans les pays émergents ou les pays relativement riches, mais des subventions pour faire des projets de développement, ça ne représentait pendant une décennie, ça ne représentait que 200 millions d'euros par an, dont une centaine qui allait au Sahel, et donc une véritable goutte d'eau. Alors là, le président Macron s'est fâché, et suivant les recommandations multiples qui avaient été faites depuis des années en ce domaine, a décidé de porter en 2019 à un milliard d'euros le montant de trade en subvention pour les pays les plus pauvres, ce qui est très important parce que c'est cet apport d'aide en subvention qui nous permettra d'avoir ce qu'on appelle un effet de levier et de mobiliser des ressources de l'Union européenne, de mobiliser des ressources de la Banque mondiale pour les guider vers les secteurs et vers les activités qui nous paraissent les plus intéressantes. Et en ce domaine, l'agriculture, encore une fois, est importante, mais aussi l'éducation de base, parce que l'éducation dans les pays sahéliens, mais également dans le centre Bigoutier, est un véritable scandale, un véritable échec. Et puis, certainement, la formation technique est un domaine également très, très important. Donc ça, il y a une décision politique récente qui date du mois de février dernier, qui va remettre un peu les pendules à l'heure en termes de volume d'aide qui vont aller au pays des développements.
Ce ne sera plus le cas. On arrive presque au terme de cette émission, François Héran.
Je voulais ajouter, il y a un point qui est important aussi, et c'est en Afrique, c'est la grande insécurité juridique qui règne pour garantir les transactions, pour garantir le droit de propriété. Les paysans, par exemple, ont beaucoup de mal à savoir combien de superficie ils ont exactement, parce que les propriétés sont très peu garanties, sont un peu... Alors, ça, c'est lié également à la gouvernance, à des problèmes. Enfin, il est certain que la sécurité juridique est un élément fondamental qui, évidemment, renvoie à des problèmes. Voilà. Il n'y a pas que le taux de fécondité ou l'aide au développement.
On va continuer en tout cas à suivre de près ce dossier essentiel pour l'Afrique et pour l'Europe. Un immense merci à François Héran, Flore Gubert, Serge Mikhailov. Je rappelle vos livres respectifs. François Héran avec l'immigration, donc Mesurer, débattre, agir, publié à La Découverte. Serge Mikhailov, Afrikanistan, l'Afrique en crise, va-t-elle se retrouver dans nos banlieues chez Fayard? Et Flore Gubert, Les migrants, acteurs des changements politiques en Afrique aux éditions de Beck. On mettra toutes ces références sur le site franceculture.fr. Merci infiniment à tous les trois. Sur cette chanson, les Meridian Brothers, Donde Estas Maria, que l'on va quitter le continent africain, direction la Colombie, où l'arrivée au pouvoir du président Iván Duque signe le retour de la droite dure dans le pays.
Le magazine du week-end, Tiffane de Roquigny.
Pour ses partisans, il est l'homme qui veut corriger, voire déchirer l'accord de paix conclu avec les FARC. Pour les autres, il n'est qu'une marionnette entre les mains de l'ancien président Alvaro Uribe, proche des paramilitaires. Iván Duque, 41 ans, vainqueur des élections présidentielles de juin, entrera en fonction après-demain dans un pays miné par les divisions. Un an tout juste après le désarmement complet des FARC, alors que les anciens guérilleros sont entrés au Parlement le mois dernier, la paix est aujourd'hui loin d'être acquise. L'accord avec la guérilla dans sa forme actuelle est plus fragilisé que jamais. Les assassinats des militants des droits sociaux se multiplient et les bandes criminelles et autres milices se disputent les territoires abandonnés par les anciens révolutionnaires. Alors peut-on encore croire à la réconciliation en Colombie? Et que faut-il attendre du nouveau président qui succède aujourd'hui au prix Nobel de la paix, Juan Manuel Santos? On en parle avec nos deux invités, Olga González, chercheuse associée à l'URMIS, unité de recherche migration et société de l'Université Paris Diderot, et Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Bonjour à tous les deux et un grand merci d'être là.
Avec humilité et honneur, je voudrais dire au peuple colombien que je vais dédier toute mon énergie pour unir notre pays. Plus de divisions, pensons à un pays pour tout le monde. Cette paix dont nous avons rêvé, qui demande des rectifications, aura des corrections pour que les victimes soient au centre du processus, pour garantir la vérité, justice, réparation et non la répétition.
On entendait Iván Duque, le nouveau président colombien, le soir de sa victoire, le 17 juin dernier. Il parle donc de correction et non plus d'une transformation en profondeur de l'accord de paix. Olga González, le candidat de la droite dure, a déjà assoupli ses positions selon vous?
Bon, il est peut-être prématuré de prétendre dire qu'il a déjà modifié ses positions. En fait, il n'a pas commencé à gouverner. Il prendra son investiture le 7, donc dans deux jours. Mais il a déjà composé son gouvernement. Et ce que l'on voit, c'est qu'il a quand même appelé les uribistes les plus durs dans des postes clés de son gouvernement. Parmi les plus radicaux opposants au processus de paix. Alors, comment cela va se présenter? Enfin, c'est toujours un peu chancelant. Il y a plusieurs choses. Il y a le problème de la justice transitionnelle, qui est une manière peut-être d'attaquer le processus de paix. Vous savez, lors des accords de paix, il y avait une instance qui devait juger des crimes en évitant les grands crimes contre l'humanité, enfin, en évitant une impunité pour ces crimes-là, mais il devait y avoir une instance qui allait quand même amnistier une grande partie des crimes commis dans le conflit.
À condition qu'ils soient reconnus, on pouvait éviter de passer la case prison ou au moins d'avoir une peine largement raccourcie.
Exactement, à condition de raconter la vérité. C'était un peu, on a copié des mécanismes qui ont été faits ailleurs dans d'autres pays avec relatif succès. Mais en fait, ceci est en train d'être attaqué par le gouvernement depuis. Enfin, le Congrès a déjà été installé le 20 juillet dernier. Et il y a déjà des attaques assez frontales contre, par exemple, ce mécanisme. Donc non, on ne peut pas dire qu'il a complètement assoupli ses visions par rapport au processus de paix. Et on va attendre après comment ces forces uribistes qui restent très présentes au sein de son gouvernement vont encore durcir leur position.
Pour Iván Duque, ce n'est pas possible que d'anciens guérilleros accusés de crimes graves participent à la vie politique sans passer d'abord par la case prison, Gaspard Estrada. Mais alors, quelles conséquences, s'ils s'attaquent véritablement à cette commission de justice, quelles conséquences cela pourrait avoir?
Bon, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, Iván Duque estime qu'il a une majorité politique derrière lui. Il a les urnes derrière lui qui justifieraient à ses yeux le fait que le nouveau gouvernement colombien reprenne le dessus. Le problème, c'est que ces négociations, en tout cas en ce qui concerne les FARC, ont déjà été signées, elles ont été validées, y compris par la justice colombienne, ce qui pose un problème légal, de savoir si on peut défaire en quelque sorte ces accords. Il y avait eu entre la fin 2016 et le printemps 2017 un très fort débat sur la question de la constitutionnalité de ces mesures, Et il y avait eu une opposition à l'époque virulente de l'opposition uribiste, justement pour éviter que ces réformes rentrent dans ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. Et donc, on voit bien aujourd'hui les conséquences justement de ce débat, puisque le nouveau gouvernement souhaite mettre fin à cela. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle donne, c'est que après plus d'un an de la signature de ces accords de paix, il y a aussi des effets positifs, mais aussi des effets négatifs de cet accord, notamment sur le terrain. Vous l'avez mentionné au début de votre émission. Il y a, dans des zones rurales notamment, des grands problèmes de mise en œuvre de cet accord.
On parle d'un millier de combattants des FARC qui seraient déjà retournés au maquis.
Voilà, et il y a aussi une question liée à la multiplication aussi de l'exploitation de certaines cultures illégales par d'autres groupes. Et donc, cela se pose, et je n'ai aucun doute que le nouveau gouvernement va essayer d'utiliser justement cette question-là pour mettre sur le débat public la nécessité de revoir ces accords.
Olga González.
Oui, justement. Un des points, enfin, il y avait 6 points qui avaient été accordés dans ce processus de paix. Un de ces points se réfère aux drogues, aux cultures de coca, à l'idée qu'il fallait traiter les paysans qui cultivent la coca comme l'échelon le plus faible, le maillon le plus faible de cette chaîne, et non pas les attaquer. Et ça est en train d'être remis en cause, et vous pouvez avoir la quasi-certitude qu'il y aura quelque chose, une pratique qui avait déjà été légitimée ces 15 dernières années, à savoir le retour des aspersions aériennes par rapport à ces cultures de coca. La Colombie a à nouveau de grosses extensions de cultures de coca, environ 150 000, 200 000 hectares. Tout ceci, il faudrait encore savoir pourquoi on n'arrive pas, après tant d'années de guerre contre les drogues, à contrer ce problème, à offrir des possibilités autres aux paysans. Toujours est-il que ça, qui était un point essentiel du processus de paix, et pourquoi il est essentiel, parce que les bases, disons, qui soutiennent les FARC, souvent sont dans les régions périphériques du pays où se produisent, un des revenus est actuellement la culture de coca. Et donc, en attaquant, en faisant ces aspersions aériennes, le gouvernement va à la fois essayer de donner une image de, voilà, on lutte vraiment, on est engagé dans la lutte contre les drogues, et à la fois enlever les bases sociales, on va dire, de la guérilla.
Oui, parce qu'en effet, les surfaces de culture du coca, de la coca, ont quadruplé depuis 2012, c'est-à-dire depuis en fait le début des négociations avec les FARC, Gaspar Estrada. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une myriade de groupes criminels dans les territoires abandonnés par les FARC qui sont en train d'essayer de se disputer ces territoires, Gaspar Estrada.
Ben oui, et d'ailleurs, c'était tout l'enjeu justement de ces négociations et de cet accord de paix. Comment faire en sorte que l'État puisse retourner dans ces territoires mis à l'abandon et qui ont été abandonnés par l'État colombien? Et donc, il y avait tout un volet qui est très important à mes yeux, qui est la question du financement de ces programmes sociaux, de ce réinvestissement de l'État.
Les financements qui tardent à arriver.
Qui tardent à arriver. Bon, la France a d'ailleurs participé justement à ce genre d'annonces. Le ministre Le Drian était en Colombie il y a quelques jours, justement pour annoncer aussi la volonté de la France de soutenir justement ces programmes sociaux. Mais je pense que c'est là où la communauté internationale devrait agir, parce que la communauté internationale s'est fortement mobilisée pour défendre non seulement les accords de paix, mais l'acquis de la paix. Et je pense que c'est un élément fondamental pour comprendre pourquoi, malgré ces velléités, le gouvernement colombien et notamment le nouveau président Duque essaie justement de nuancer ses propos par rapport à la fin ou l'abandon de cet accord de paix, puisqu'il sait que la communauté internationale veille au grain.
Il y a une autre dimension qui fragilise cet accord de paix, c'est la lenteur du processus d'intégration des anciens guérilleros à la vie civile, qui laisse craindre un retour au maquis. On disait tout à l'heure un millier qui serait déjà rentré, retourné au maquis. Comment comprendre cette lenteur de ce processus d'intégration?
Oui, est-ce qu'il y a une réelle volonté politique de faire les choses? Je pense que ça a manqué. Bon, il y a un manque de moyens aussi. Mais Il y a des observateurs qui ont été regarder comment cela se passe sur le terrain, et c'est stupéfiant ce que l'on est en train de voir. Il y a vraiment une espèce d'improvisation aussi permanente qui explique cette lenteur, un manque de volonté politique.
Je voudrais qu'on revienne à la personne d'Ivan Duque, qui affronte sa première crise politique avant même son entrée en fonction, puisque son mentor Alvaro Uribe a été mis en examen fin juillet par la Cour suprême pour subornation de témoins et entrave à la justice. Il aurait tenté d'étouffer les conclusions d'un rapport sur ses liens avec les paramilitaires. Selon vous, Gaspard Estrada, ça risque de fragiliser durablement le nouveau président. Quelles pourraient être les conséquences de cette crise politique ?
Bon, je pense qu'en effet, s'il s'agit de sa première crise politique, et en effet, cela peut avoir des conséquences importantes pour la suite de son mandat, puisque Monsieur Duque est arrivé dans des conditions, disons sur le plan politique, beaucoup plus fragiles que son antécesseur, Monsieur Juan Manuel Santos, qui avait été lui aussi, à l'époque, en 2010, lorsqu'il avait été élu pour la première fois, élu sur la base d'un programme de continuité avec Monsieur Uribe. Il a pris par la suite ses distances, puisqu'il avait...
Qui a été considéré comme une trahison par les uribistes.
Par les uribistes, en effet, cela a été considéré par une trahison. Donc aujourd'hui, la question justement de ce rapport de force entre Monsieur Duque, Monsieur Uribe, les forces qui soutiennent Monsieur Uribe, se pose. Et donc, une mise en retrait sur le plan politique de M. Uribe pourrait justement avoir des conséquences sur cette gouvernabilité. Cela étant dit, cette mise en examen va encore prendre du temps. On voit bien que la stratégie juridique de M. Uribe n'est pas du tout claire, puisqu'il a annoncé tout d'abord son souhait de se retirer du Sénat pour par la suite vouloir revenir, en tout cas de ne pas quitter son siège de sénateur. Donc on voit bien
ce qui lui permet d'être jugé par la Cour suprême.
Tout à fait. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on n'est qu'au tout début justement de cette affaire.
Olga González.
Oui, par rapport à ça, effectivement, il y a un parallélisme à faire entre Santos et Duque. Santos était le ministre de Uribe et il a été élu président parce que finalement il était censé être le continuateur de l'œuvre de Uribe. Donc il doit beaucoup à Uribe pour avoir été élu en 2010, en tout cas. Duque, il doit tout à Uribe. Santos, auparavant, il avait été ministre, il avait une carrière derrière lui. Duque, il n'était rien. Il avait été un sénateur plus ou moins inconnu. Il a été sénateur parce que Uribe l'a mis là. Ils se sont rencontrés, ces deux hommes, Uribe et Duque, à Washington, dans les couloirs de la Banque interaméricaine de développement. En fait, ils se sont rencontrés parce que Duque a participé à une enquête sur une flottille israélienne qui avait été commanditée pour Monsieur Uribe. C'est paradoxal, Monsieur Uribe, qui est accusé de graves crimes en Colombie, avait été désigné par les instances internationales comme investigateur de cette question de la flottille israélienne où il y avait eu des tirs et des personnes mortes. Et Duque était devenu un peu celui qui l'a épaulé dans cette enquête. C'est comme ça qu'ils ont noué leur alliance. Bon, par ailleurs, Duque est le fils d'un homme politique de Medellín, donc de la même ville que M. Uribe. Donc c'est à peu près les mêmes cercles, on va dire, politiques. En tout cas, voilà. Mais toujours est-il que Duque, il doit absolument tout à M. Uribe et ça sera beaucoup plus difficile pour Duque de se mettre à l'écart et d'avoir une... justement de prendre une distance par rapport au desiderata de celui qui est son mentor, qui déjà, comme je vous disais, a mis en poste les principaux, a choisi les principaux ministres de son gouvernement.
Parce que Uribe, en effet, reste l'homme politique peut-être le plus influent du pays. Il a été réélu triomphalement au Sénat en mars. Donc en fait, ce que vous nous dites, Olga González, c'est que ceux qui disent que Ivan Duque sera purement et simplement la marionnette de son ancien mentor, c'est probablement vrai.
En tout cas, il a moins de capital par ailleurs pour capital, j'allais dire politique ou que sais-je, d'autres réseaux pour s'opposer. Il a moins de facilité pour cela. Lui, oui.
La campagne présidentielle de juin a également été marquée par le très bon score de la gauche dans un pays où on a plus souvent le choix entre la droite et l'extrême droite au second tour. Gaspard Estrada, on peut parler d'une nouvelle vitalité de la gauche en Colombie, et si oui, comment l'expliquer ?
Non, ce que je pense, c'est qu'en effet, cette campagne présidentielle a révélé et a permis que pour la première fois, un candidat de gauche arrive au deuxième tour et qu'il obtienne un score historique, plus de 40% des voix, 42 pour être précis. La question sera quel sera le débouché politique, puisqu'on a déjà vu sous Uribe, lorsque Uribe était au pouvoir, que les militants de gauche avaient pu créer un rassemblement, en tout cas un parti, le Parti démocratique alternatif, le Polo Democratico Alternativo, qui avait eu un très bon score aussi lors des présidentielles de 2006. Malgré tout, du fait des divisions, des problèmes internes propres à la gauche, non pas uniquement colombienne, mais de manière générale dans le monde, ce spectre des divisions a eu des conséquences politiques et donc l'affaiblissement de ce parti. Et donc toute la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si M. Petro, qui dispose désormais d'un siège au Sénat, pourra utiliser justement cette tribune pour rassembler les Colombiens de gauche et donner une suite non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan local à cette expression qui souhaite soutenir dans les grandes lignes une plus grande équité sociale, une redistribution des terres et une suite aux accords de paix.
Cette gauche, Olga González, peut réussir à faire porter sa voix ?
Je vais vous répondre, mais avant, je voulais juste préciser quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit par Gaspar Estrada. Je partage grosso modo ce que vous dites. Mais il y a quand même, il faut préciser quelque chose. Petro a eu 42% au second tour, mais aussi bien la gauche, enfin, la coalition, ou plutôt la somme de la gauche et du centre avait obtenu plus de 50%. En fait, Petro n'aurait pas eu ce score, ce très bon score au second tour, sans le soutien d'une bonne partie des gens de centre. En fait, là où je veux, ce que je veux souligner, c'est que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, le spectre politique en Colombie est de plus en plus clair, on va dire. Il y a les tercerías, c'est-à-dire les forces qui ne sont pas les forces traditionnelles, ce n'est plus le bipartisme, qui montent et qui montent énormément. Et des fois, c'est plutôt le centre qui va obtenir de très bons scores, par exemple autour des figures de Mocus, qui reste un homme politique extrêmement populaire. Et parfois, c'est plutôt autour des leaders de gauche comme M. Petro. Cette fois-ci, c'était le cas. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que 50%, un peu plus de 50%, coalition ou disons cette addition peut faire plus de 50% au premier tour. La difficulté est après de cristalliser dans quelque chose pour dépasser une Colombie qui existe elle aussi, qui est plus anachronique, qui est très retardataire, mais qui alors, est très conservatrice.
Justement, est-ce que l'une des leçons du scrutin et de ce bon score de la gauche au second tour de l'élection présidentielle, c'est le signe que l'anticommunisme viscéral de la société commence à se fissurer et que les revendications sociales qui, là, ces derniers mois, ont été portées, notamment par les FARC, commencent à imprégner la société? Vous voyez ce phénomène apparaître?
Oui, je pense que la fin des FARC, en fait, le processus de paix, la fin des FARC comme guérilla entraîne une révolution dans le système politique colombien et dont on prendra petit à petit la mesure. Effectivement, les FARC, aujourd'hui, sont un parti politique, restent extrêmement impopulaires. Elles auraient eu moins de... Enfin, en termes de vote, elles ont eu moins de 0,5% pour le Congrès, puisqu'elles pouvaient présenter une liste. Elles ont des députés, parce que c'était...
Selon l'accord, ils ont 10 députés
voilà,
au Congrès.
Ils ont 10 députés, 5 au Sénat et 5 à l'Assemblée. Mais elles restent extrêmement impopulaires. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que la gauche, qui peinait toujours à se démarquer des FARC et que ces rivaux renvoyés, enfin, du moment où vous étiez de gauche, vous étiez systématiquement catalogué comme étant pro-guérilla. C'est extrêmement difficile pour une gauche d'élaborer un discours alors qu'il y avait cette situation. Maintenant, ça change. Je pense qu'effectivement, il y a les conditions pour qu'une gauche prenne les revendications sociales dans un pays qui reste un des plus inégalitaires du monde, dans un pays où 90% des paysans vivent dans la pauvreté. Enfin, vous voyez où il y a les... Et pour cela, peut-être, c'est pour cela qu'ils vont cultiver la coca, enfin, dans un pays où il y a énormément de choses à faire, qui n'a jamais eu une gauche au pouvoir, comme c'est le cas dans d'autres pays d'Amérique latine, même si ça a été les résultats n'ont pas été fabuleux. Mais bon, il y a quand même des acquis que la Colombie ne connaît pas.
Donc la gauche est devenue, avec cette élection, un adversaire politique légitime en Colombie, Gaspar Estrada.
Oui, à condition d'élaborer un discours, à condition de créer une structure qui permettent de porter ce message, de porter ces aspirations à court, moyen et long terme, puisqu'on a déjà vu par le passé plusieurs expériences qui ont malheureusement échoué. La question est de savoir...
Mais elle n'était jamais arrivée au second tour.
Absolument, non. Donc ça, c'est un élément. La question est la question qui venait d'être... qui vient d'être posée, est celle-là. C'est-à-dire, c'est dans quelle mesure ces 42% représentent justement des électeurs qui souhaiteraient voter à nouveau pour la gauche, où il s'est plutôt trouvé confronté à un dilemme, c'est-à-dire voter contre un candidat, contre Monsieur Uribe. Et donc la question est de transformer ce vote négatif dans une option positive.
Alors l'un des grands combats de la gauche actuellement, c'est la lutte contre les assassinats de leaders sociaux et de militants des droits humains, qui connaît actuellement une inquiétante recrudescence. 326 d'entre eux, je le disais, ont été tués depuis l'accord de paix de novembre 2016. Qui sont les auteurs de ces assassinats, Olga González? Que signifie ce regain de violence, même s'il faut préciser que ces assassinats n'avait jamais cessé. Est-ce qu'on peut y voir la main, par exemple, des paramilitaires?
Oui, ces assassinats n'ont malheureusement pas cessé. Enfin, la Colombie connaît une grosse violence politique, et c'est ceci depuis les années peut-être 30. Les différents politiques, souvent, sont réglés de manière violente. Et enfin, là, il y a une recrudescence, c'est évident. Il y a une recrudescence en période de paix, en période de signature d'accord de paix, tout cela, ça a tendance, on voit, à ces recrudescences. Et c'est terrifiant parce que, justement, quel est le message qui est envoyé à la société? C'est, voilà, enfin, ceux qui veulent s'incorporer dans la vie civile ou ceux qui veulent avoir des revendications sociales sont des cibles. Ils deviennent des cibles de qui? Des groupes paramilitaires, bien entendu, des groupes...
Quels éléments on a pour savoir qui sont les auteurs de ces
assassinats? Il y a des enquêtes qui sont menées par la justice. Parfois, il y a souvent des menaces, en fait. Souvent, ces assassinats sont conduits après une série de menaces de groupes. C'est surtout en province, en fait, que ces menaces sont aboutissent. Puisque dans les grandes villes, il y a plus un système de protection, que ce soit par les médias, par les juges, par... Voilà, il y a plus de censure sociale aussi, je dirais, dans les zones rurales. C'est beaucoup plus difficile pour de nombreux leaders qui essayent de... Que sais-je, le chef d'une junta d'action communale, donc des communautés très, très locales ou qui défendent l'environnement et tout cela, ça peut être très difficile de s'opposer à des forces qui sont bon, très, très violentes et qui ont l'habitude, enfin qui perçoivent dans le discours, c'est pour ça que le discours de Uribe est extrêmement dangereux, parce que c'est quelque part, il légitime l'anticommunisme, il est en train de donner en permanence des arguments de haine de l'autre, de celui qui n'est pas comme moi. C'est l'inverse de ce qu'on écoutait tout à l'heure avec Duque. On espère que Duque, qui vient d'un autre milieu quand même, il n'est pas issu des grands terratenientes, ce n'est pas un homme qui a fait une fortune avec les exploitations agricoles, il a pas de lien avec le paramilitarisme. On espère que lui, au moins au niveau du discours, il aura... une autre manière d'aborder ces problèmes. Par contre, enfin, on espère aussi qu'il y aura une condamnation féroce, enfin, disons, ferme. Oui, c'est ce que je voulais dire, de ces crimes. Et ça, jusqu'à présent, ça a plutôt fait défaut. Les hommes politiques voient arriver ces assassinats et ne se prononcent finalement rarement.
Mais la mise en examen d'Uribe par la Cour suprême est un excellent signal dans ce sens.
Oui, mais en fait, cette mise en examen est le produit d'un travail qui a été fait par un sénateur du Polo, d'ailleurs, dont Gaspard vient de parler, le Parti Polo Democratico. Et à vrai dire, c'est quelque chose que l'on sait, ce sont des choses que l'on sait, des achats de témoins, enfin, c'est des espèces de trafic de témoins pour éviter d'être inculpé. Enfin, c'est des choses assez sombres qui ressemblent plus au monde de la mafia qu'au monde de la politique, on va dire, légale. Il n'y a pas non plus, hormis les secteurs auxquels on peut s'attendre, les secteurs de gauche, les secteurs politiques, il n'y a pas, à vrai dire, avec l'attitude de Uribe, une condamnation ferme de la société. Je pense que cela manque.
Plus dans la société, d'accord. Et alors, il y a une autre guérilla dont on n'a pas encore parlé et qui, évidemment, rend peut-être la paix avec les FARC incomplète. C'est l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. Le président sortant, Juan Manuel Santos, a échoué à conclure un cessez-le-feu avec la deuxième guérilla du pays. Est-ce que le nouveau président pourrait poursuivre ces négociations, Gaspar Estrada, comme Manuel Santos l'a exhorté à le faire?
Alors, en tout cas, l'ELN le souhaite, parce qu'elle a souhaité, elle l'a dit publiquement, elle a exprimé son souhait de poursuivre ces négociations. Le problème, c'est que très clairement, Monsieur Duque n'a pas ces priorités-là. D'ailleurs, les deux, le LN et le gouvernement Santos, ont eux aussi échoué justement à nouer un accord, tout simplement parce qu'il y a une nouvelle majorité politique qui a été donc installée au Congrès dès le mois de juillet, et que très clairement, cette majorité-là a fait comprendre, notamment en ne votant pas ces points centraux sur le plan technique de cette juridiction de paix, que ce genre d'initiative sur le plan politique serait contesté au Parlement. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui de la part de l'ELN plutôt un attentisme, à savoir que fera le nouveau gouvernement Duque, tout d'abord en ce qui concerne l'accord qui a déjà été signé avec les FARC avant de prendre de nouvelles initiatives, compte tenu de cette question liée aux FARC, cette question de liée à Uribe et tout simplement la gestion par M. Duque de sa majorité au Parlement.
Je voudrais qu'on dise un mot maintenant du Venezuela, puisqu'évidemment on ne peut pas parler de Colombie sans parler de son voisin direct, le Venezuela qui traverse, on le sait, une grave crise humanitaire, conséquence de son effondrement économique. Et on a appris ce matin que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait échappé à un attentat, une attaque de drone qui a blessé 7 membres de la garde nationale bolivarienne alors que le président était en plein discours. Nicolas Maduro accuse directement la Colombie d'être derrière cet attentat. C'est une hypothèse qui est plausible pour vous, Olga Gonzalez, ou à mettre complètement du côté des rhétoriques complotistes de Nicolas Maduro?
Oui, c'est difficile de parler du Venezuela en général. C'est difficile d'en parler, que ce soit en Colombie, en France. En général, c'est extrêmement difficile puisque l'opinion est déjà très biaisée par rapport à ce pays. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment le rôle que le Venezuela, Maduro, Chavez a joué lors de cette élection. Et vous pourriez comparer le rôle du Venezuela aux élections précédentes. Ça n'a rien à voir.
Il y a eu une place déterminante dans cette élection, notamment sur la question migratoire.
Non seulement, il y a deux questions. La première, on a parlé tout à l'heure de l'anticommunisme. En fait, c'est encore plus l'anti-chavisme, l'anti-castrisme qui est perçu. En fait, les opposants, mais pratiquement tous les opposants de droite, mais aussi de gauche, regardent le Venezuela aujourd'hui avec la vision qui est rendue en général par les médias, qui est celle d'un échec complet du chavisme et de Maduro comme le responsable unique de cette situation. Alors, je pense que les choses déjà sont beaucoup plus complexes, mais ce n'est peut-être pas en ce moment qu'on va aborder le problème du Venezuela. Toujours est-il que tous les hommes politiques, et je mets ici aussi les hommes de gauche, condamnent fermement Maduro, mais non, ils ne le condamnent pas seulement, c'est surtout qu'ils le... c'est devenu l'insulte favorite en Colombie pendant les élections de dire « mais t'es un Maduro, toi ». C'est comme ça qu'ils se parlent, les hommes politiques. Alors, Maduro, par rapport à cet attentat qui vient d'être commis,
En quelques secondes, pardon, on arrive au tout.
Il n'a pas accusé la Colombie, il a accusé Santos directement. Il a accusé Santos qui, je vous le dis, comme tous les autres, peut faire des blagues autour de Maduro et qui venait de dire quelques jours avant « le régime de Maduro va prendre fin dans quelques jours ».
d'un mot, Gaspard Estrada, on arrive à la toute fin de l'émission. Le fait que la Colombie joue la carte de plus en plus, plus que jamais, des États-Unis contre le Venezuela, ça explique peut-être cette diatribe de Maduro contre le président Santos.
Oui, ça s'inscrit dans cette polarisation qui a marqué la campagne présidentielle au sujet du Venezuela et la volonté très, très claire de Monsieur Duque de monter d'un cran en ce qui concerne ses critiques au Venezuela, compte tenu des énormes problèmes que vit le Venezuela, aussi une question intérieure puisqu'il y a une augmentation des flux migratoires et du problème général que pose aujourd'hui le Venezuela dans la région.
Au moins 500 000 Vénézuéliens qui auraient traversé la frontière avec la Colombie en 2017. Donc la boucle est bouclée. On commence et on finit cette émission par la grande et complexe question des migrations. J'aurais voulu qu'on en parle plus, mais malheureusement, l'émission est presque finie. Merci beaucoup, Olga González et Gaspard Estrada, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se quitte sur Amor Fingido de Puerto Candelaria. Et on se retrouve samedi prochain à partir de 12h40 pour un nouveau magazine du week-end. D'ici là, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur franceculture.fr ou la podcaster. Et dans un instant, on retrouve les idées claires de Nicolas Martin. Excellente journée sur France Culture.